dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Flavien Déré, charpentiste sur Dissonance.
Ce formatage lié au travail, il est sociétal en fait. Il nous est inculqué dès rien qu'à l'école, quoi. Avoir des horaires quand on va à l'école, devoir rendre des devoirs, c'est une préparation à la vie d'entreprise, c'est une préparation au salariat, c'est une préparation à la subordination. Je pense que la plupart des métiers ont connu une espèce de prolétarisation dans le sens où il y a une perte des savoir-faire. Et ça a mis du temps pour atteindre les métiers manuels, mais finalement on y est arrivé. Quand je fais de l'artisanat, un des indicateurs qui me permet de me dire que je suis dans l'ouvrage et non dans le travail, c'est ma volonté à la fin du chantier, ma volonté à signer ou non l'ouvrage réalisé. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec le mot artiste, ouais. Je préfère à la limite plasticien, parce que j'ai l'impression qu'on est plus dans la recherche de la matière et dans la pratique de la matière. Mais charpentiste, ça me plaît beaucoup, ouais.
Ce charpentiste hors norme œuvre sa vie sans chercher à la gagner.
Il se nomme Flavien Déré et signe ses créations du nom d'Étau, un outil magique qu'il considère comme le point zéro de son univers créatif.
À 19 ans, il entre en charpenterie où il se confronte au monde du travail et à ses contraintes. 2 ans plus tard, il s'inscrit aux Beaux-Arts et en sort diplômé 5 ans après.
En perpétuelle réflexion sur la notion de travail et celle qui lui convient mieux d'ouvrage, Flavien Étau poursuit sa route, jalonnant son chemin de création originale et utilitaire, où il œuvre à sublimer le bois et parfois même à le faire revivre, comme le prouve sa dernière création, la table bio en chêne, bio BI2LOT, d'inspiration médiévale, fabriquée avec du bois de récupération, à qui il a su rendre sa noblesse d'âme rouergate.
Cette table est visible au laboratoire gustativo-culinaire La Table d'Alix et Antonin Ponce-Bellegarde à Besogne sur le Coscontal, tout près de Rodez, en Aveyron.
Nous retrouvons Flavien aujourd'hui dans un lieu mythique, la Menuiserie, salle d'exposition vivante animée par Jeanne Ferrieux.
Il est entré dans ce lieu il y a quelques années en tant qu'artisan pour y installer une palissade et s'y retrouve aujourd'hui en tant que plasticien charpentiste pour y préparer sa toute première exposition en solo.
Pour Dissonance, Étau partage avec nous ses réflexions sur l'origine du mot travail,
sur la magie des outils,
sur l'incertitude d'une vie qu'il veut vivre et pas gagner,
et sur ses doutes et ses angoisses à la veille de cette première mise à nu qui aura lieu à la Menuiserie, rue du 11 novembre à Rodez, du 8 juillet au 29 août 2023. Flavien Déré, charpentiste sur Dissonance.
Flavien Déré, mais aussi Étau. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre Flavien et Étau? Flavien, m'a-t-on dit, charpentier. Étau, artiste. Et une troisième personne m'a même dit, c'est un charpentiste.
Donc la question, c'est pourquoi Étau, en gros?
Avant d'en venir à pourquoi Étau, on m'a parlé d'attache aveyronnaise, d'un grand-père qui était menuisier.
Alors, le grand-père n'était pas menuisier. Il était bricoleur comme l'étaient un peu tous les grands-pères de l'époque, avec un savoir-faire dans la matière vachement développé en fait, mais du côté maternel comme du côté paternel. Et les attaches aveyronnaises, et oui, j'ai une partie de ma famille qui habite en Aveyron, donc je viens dans le coin depuis que je suis enfant, quoi. Je me suis orienté en fait très très tôt, tout de suite après la troisième, je suis parti en bac pro. Parce que je voyais pas tellement l'utilité de continuer en général, en fait, je voyais un petit peu plus comme une espèce de perte de temps. Et j'avais déjà un petit peu eu cette intuition et cette. Enfin, que la charpente allait me plaire. Et cette envie, voilà, de travailler la matière, en fait, qui a été là depuis un peu mon enfance. Quand j'étais gamin, avec mon frère, on construisait beaucoup de cabanes. Et y a même eu des fois où on essayait de monter des palettes dans des arbres à des hauteurs qui auraient fait rouspéter notre mère. Et en fait, on a toujours eu des problèmes pour fabriquer le toit de nos cabanes parce qu'ils n'étaient pas étanches, en fait. Et je crois qu'il y a un petit peu... Enfin, j'aime bien me dire ça, que j'ai voulu apprendre à fabriquer les toits, quoi.
T'aurais dû être couvreur.
Alors en fait, en Haute-Savoie, la formation, c'est charpentier-couvreur. Mais je suis quand même vachement plus attiré par la structure et le concept de structure, de triangulation et de travail du bois plutôt que uniquement poser de l'ardoise ou voilà quoi. Donc j'ai fait mon bac pro qui a duré 3 ans et ensuite j'ai fait un BTS pour m'orienter un peu plus vers les calculs de structure et plus du travail de bureau quoi.
Et c'est là que tu as rencontré le monde du travail. Tu as bossé après.
Exactement, ouais. Après mon BTS, du coup j'ai bossé pendant 2 ans. En tant que charpentier dans une petite entreprise en Haute-Savoie. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le monde du travail, surtout aussi pendant mes études, parce qu'on avait pas mal de stages. Et je me souviens de l'énorme claque que j'ai pris lors de mon premier stage en entreprise.
Pourquoi ?
Je sais pas, je crois qu'il y a plein de choses qui... dont on ne se rend pas compte, c'est un petit peu la différence entre la pratique et la théorie. On est à l'école depuis qu'on est gamin, on est dans la théorie, et la théorie c'est très gentil tout ça, mais on se rend compte de ce qu'est la pratique, et évidemment de la dureté de ce genre de métier, du bâtiment.
Dureté physique ?
Physique, intempéries, niveau des horaires, niveau de... Bah aussi des états d'esprit, quoi, des collègues. Ça, j'ai mis un peu de temps, un peu plus à m'en rendre compte. Mais on arrive dans un certain milieu très, très marqué par... j'ai pas envie de faire de raccourcis ou de d'amalgame. Mais il y a quand même un certain état d'esprit chantier, quoi. Où il y a le petit bizutage qui va bien quand tu es jeune et que tu débutes. Où il y a... c'est un espèce de package, quoi, on va dire.
Donc là, tu as été confronté à ça et tu as décidé de quitter le monde de la charpenterie ?
Alors le quitter, non, pas totalement, parce que en m'orientant en troisième, j'avais visé pas trop mal, en fait, dans mes envies d'orientation. J'ai plus eu envie de faire une espèce de petite... rattraper un petit peu le tir ou plus le préciser, quoi. Donc en fait, au bout de 2 ans de boulot dans cette entreprise, évidemment, j'étais en CDI, j'ai signé mon CDI à 19 ans et il y a cette histoire de routine qui rentre très rapidement dans le quotidien. Et moi, je me disais tout simplement, je me voyais partir pour 40 ans dans cette même entreprise parce que ça se passait très bien. J'avais de très bons rapports avec mon patron, avec les gars aussi, j'avais fini un petit peu par prendre le pli, parce qu'il a fallu un peu se plier à ce chef de chantier qui avec qui c'était pas toujours facile, un petit peu de l'ancienne école, je sais pas. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, c'est grâce à lui que j'ai appris tout ce que je sais. Mm-hmm. C'est lui qui m'a réellement formé, je pense. En 2 ans avec lui, j'ai plus appris qu'en 5 ans d'école. Et voilà, mais très content. Enfin, je pense que j'aurais pas repris les études, donc aux Beaux-Arts, de la même façon. Enfin, il fallait que je bosse pendant 2 ans pour pouvoir commencer les Beaux-Arts comme il faut, quoi.
Et là, aux Beaux-Arts, tu t'es confronté à des gens qui n'ont jamais été eux-mêmes confrontés au monde du travail.
Oui, tout à fait. Ouais. Bah, je suis arrivé, j'étais un petit peu dans les plus vieux. Et bien sûr, enfin... Bah, c'est là où j'ai un petit peu remis en question toute cette espèce de formatage lié au travail que j'avais eu depuis un peu mon enfance et aussi beaucoup dans mes études de charpentier, dans le bâtiment. On a une certaine vision du travail, il y a quelque chose de très méritocratique hein, et de très... Si tu veux être considéré par tes collègues, il faut que tu sois quelqu'un qui se lève tôt. Ça, j'ai l'impression que c'est une espèce d'obligation. Sinon, t'es pas considéré, en fait. Donc oui, je suis arrivé aux Beaux-Arts et en ayant l'impression d'être en vacances permanentes, en fait. J'éprouvais même une certaine forme de culpabilité au vu du peu de travail, entre guillemets, que j'effectuais. Enfin, j'avais l'impression d'être tout le temps en vacances et pour moi c'était génial. Une liberté que j'avais jamais connue auparavant.
Tu viens d'un milieu où tes parents travaillaient, se levaient tôt le matin ou non?
Paradoxalement, pas tellement. Mon père a eu la chance de faire toute sa carrière en fait, dans un métier passion. Il est entraîneur de gymnastique artistique. Et en fait, il a des horaires complètement décalés, où il travaille beaucoup plus le soir, mais aussi le week-end. Donc il n'avait pas tellement ce truc de se lever le matin, voilà quoi. Mais donc j'ai pas vraiment été influencé de ce côté-là, du côté parental en fait, sur une vision du travail. Mais je pense qu'il y a, enfin, ce formatage lié au travail, il est sociétal en fait. Il nous est inculqué dès, rien qu'à l'école quoi, avoir des horaires quand on va à l'école... devoir rendre des devoirs, c'est une préparation à la vie d'entreprise, c'est une préparation au salariat, c'est une préparation à la subordination, à accepter de faire des choses sans même savoir à quoi elles vont servir, ou accepter de faire des dossiers ou des rapports qui ne seront jamais lus par personne, accepter de...
Flavien, c'est quand que tu as réalisé ça, que l'école était un formatage, quand tu es rentré dans la charpenterie ou plus tard après?
Je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes et que je ne l'ai pas réalisé à un moment donné. Il y a eu les prémices de cette prise de conscience, je pense, au moment où en fait, j'ai donné ma démission pour quitter la charpenterie. Et en disant à... Alors ça, c'était assez drôle parce que j'ai dit à mon chef de chantier et à mon patron, je vais faire des concours pour les écoles d'art. Donc là, ils m'ont regardé en mode, qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça ne sert à rien. Enfin, on est vraiment dans une espèce de niveau rentabilité, niveau productivité. Là, c'est dommage, tu étais bien parti, tu avais commencé à bosser assez jeune. Mais là, tu es en train de tout foutre en l'air, quoi. Enfin bon, ils ne comprenaient pas du tout mon choix. Et je pense qu'inconsciemment, voilà, j'ai commencé à prendre conscience de ça, où j'avais senti que c'était pas souhaitable pour mon parcours professionnel de continuer dans cette voie de routine... de chantier, etc. quoi. Mais la véritable prise de conscience s'est faite quand je me suis confronté à une autre forme de travail, du coup, aux Beaux-Arts. Et en parlant avec donc des camarades de classe, quoi, qui me disaient, oh, dis donc, en ce moment, on travaille beaucoup et tout. Et moi, de pas comprendre, à me dire, mais comment ça, on travaille beaucoup, tu te fous de moi? ça, t'appelles ça du travail? Parce que pour moi, le travail est très lié à la souffrance, en fait. Et en arrivant aux Beaux-Arts, j'étais pas du tout en train de souffrir. Je faisais que des choses que j'aimais. Et même, des fois, je m'arrêtais et je me disais, punaise, mais qu'est-ce que... J'adore ma vie en ce moment, quoi. Je faisais donc les Beaux-Arts, je créais, je faisais mon sport le soir, je sortais avec les copains, tout ça. Bon, il y avait toute cette liberté qu'il y avait avec. Mais j'étais absolument pas dans la souffrance, quoi. Donc, je ne considérais que je ne travaillais pas. Et quand on me disait, oh là là, on travaille beaucoup, tout ce qu'ils nous demandent à faire, j'étais, ouais, bah écoute, ça va quand même. Je suis passé un petit peu d'un extrême à l'autre, pas loin. Et puis même l'environnement très masculin du chantier s'est retrouvé, en fait, je me suis retrouvé dans un environnement beaucoup plus féminin. Et ça, je pense que ça a beaucoup, ça a eu son impact.
Le salariat, pas pour moi, je veux pas que deux cas par mois. Tu veux pas, j'y vais sans toi, jusqu'au bout j'aurai la foi. Zéro pas, zéro salaire, tu de la classe, zéro horaire. Dans ta boîte, tu actionnaire, les affaires sont les affaires. Conseille-moi, man, je fais l'inverse, moi c'est pas la CAF qui me verse. Moi j'aime bien la controverse, ouais gros fuck la métaverse. J'taffe que... comme un roi. Nique le salariat, ça sera sans moi. 35 heures. Non, s'il y a une chose dont j'ai peur, ouais, c'est d'avoir des regrets, de pas avoir fait ce que j'aimais. Tes diplômes sont superflus, plus t'avances, plus t'es perdu. Ça se passe jamais comme prévu, la vie sera toujours une te pue. Petit ton temps est précieux, charbonne avant d'aller aux cieux, hein. Ça donne quoi à tes ambitions, où t'en es dans ta mission? Monde hostile comme Tchernobyl, chérie je veux une vie très chill. Je sais bien que c'est pas très facile, mais un jour j'aurai mon île. J'taffe que pour moi, je me sens comme un roi. Nique le ça. Ça sera sans moi.
Moi j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain encore.
Flavien Déré, charpentiste sur Dissonance.
Comment jugeaient tes camarades des Beaux-Arts, ton parcours ?
Alors, ils me disaient, ouais, t'es fou, parce que... Non, ils ne me le disaient pas, mais ils trouvaient intéressant que j'arrive avec déjà un savoir-faire dans les mains. Et en fait, c'est ce qui a été ma force pendant tout mon cursus de Beaux-Arts, et c'est ce qui m'a permis aussi d'être accepté au concours des écoles, alors que j'arrivais un petit peu au culot. J'ai jamais fait aucun cours de dessin artistique, mais j'avais fait que des cours de dessin technique. Et de dire, bah voilà, j'ai envie de faire des études d'art. Mais au final, c'est des profils que les écoles d'art recherchent vachement. Et je pense que sortir d'une prépa, la prépa, elle formate aussi. Enfin, tout le monde sort de prépa pour ensuite faire les concours aux écoles d'art. Mais il y a un formatage qui est fait. Et d'arriver avec un parcours totalement différent, comme... J'avais un copain qui était pâtissier avant, il y en avait d'autres qui avaient fait d'autres choses, qui étaient partis en STAPS et puis qui s'étaient réorientés aux Beaux-Arts. Et bien en fait, ça permet de, d'apporter des nouvelles choses aux Beaux-Arts et de ne pas rester dans un espèce de truc.
Tu avais des profs aux Beaux-Arts qui avaient ce regard aussi sur ton parcours, en disant c'est un plus de t'avoir dans la classe ou dans le groupe ?
Alors ils ne me le disaient pas, non ? Mais je le sentais, enfin je le voyais bien, même niveau production. Enfin, c'est clair que quand on arrive avec un savoir-faire sur le matériau bois, ce qui était mon cas, tout de suite on voit beaucoup plus de potentialité dans le choix des pièces présentées, en fait, et on voit que telle chose est possible, et j'ai déjà fait ça, je peux le dupliquer, l'agrandir, le rétrécir, enfin.
Et pourquoi le choix des Beaux-Arts ? Parce que moi, je t'aurais vu faire compagnon. C'est parce qu'il y avait cette dimension de travail que tu voulais fuir ?
Non, je pense qu'à ce moment, c'était pas le travail que je voulais fuir, mais ça manquait de créativité, en fait, mon métier. Je pense que beaucoup de métiers, enfin la plupart des métiers, ont connu une espèce de prolétarisation, dans le sens où il y a une perte des savoir-faire. Et ça a mis du temps pour atteindre les métiers manuels, mais finalement on y est arrivé. C'est-à-dire que bon, pour l'instant on n'a toujours pas des machines qui vont venir prendre le boulot du charpentier parce qu'on a besoin d'un bonhomme. N'empêche que on a des matériaux qui sortent d'usine et qui ont... Et en fait, aujourd'hui le charpentier, des fois dans certaines entreprises, ça s'appelle... Enfin, on l'appelle juste un poseur. On n'est plus dans des équipes de charpentiers, on est dans des équipes de poseurs. Et en effet, parce qu'on n'a même plus besoin d'avoir fait des études de charpenterie pour pouvoir construire une baraque. Aujourd'hui, c'est un espèce de jeu de Lego géant où si on sait à peu près lire un plan, le B.A.B.A., le plan est ultra simplifié, on s'en sort, quoi. Qu'on est un petit peu bricoleur, qu'on n'a pas trop le vertige, voilà, n'importe qui a ces caractéristiques peut devenir charpentier, enfin poseur, quoi.
Et aux Beaux-Arts, au bout de 2 ans, tu y es resté 2 ans, c'est ça ?
5 ans.
5 ans.
J'ai fait les 5 ans, ouais.
À Montpellier ?
Oui, tout à fait, ouais.
À la fin, tu dois produire un mémoire, une thèse ?
Oui, tout à fait. Il y a un mémoire qui commence à se faire à partir de la 4e année et qui est soutenu donc en 5e année. Et c'est vraiment grâce à ce mémoire, cette prise de conscience, je pense, elle est réellement arrivée au moment de la rédaction de ce mémoire. Et c'est vrai qu'en fait, ce mémoire m'a permis de débloquer pas mal de choses sur ma production et surtout de mettre des mots dessus, de m'expliquer à moi-même ce que je produisais et de ce fait expliquer aux autres. Et aussi de voir le fil rouge qu'il y avait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on produit des choses et on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Il n'y a pas vraiment de fil rouge. Bon, on essaye de relier tant bien que mal. Et en fait, cette base de mémoire, c'était un petit peu le centre, j'avais l'impression. J'ai toujours l'impression.
C'était quoi le fil rouge alors?
Et bien, le fil rouge, c'était justement le travail, ou en tout cas, le comment changer le travail en ouvrage. Parce que c'est vrai que le mot travail, donc je considère que le vocabulaire a son importance. Et le mot travail, quand on regarde un petit peu ses origines, certains le remettent en question. Il y a le fameux tripalium, du verbe tripaliar. Le tripalium qui était un instrument de torture romain sur lequel on ferrait les bêtes ou bien on punissait les esclaves. Et le verbe tripaliar, donc tourmenter avec le tripalium, c'est de ce verbe que découle le mot travail, quoi. Bon, en gros, il a une charge négative énorme, ce mot, quoi. Et j'ai compris un petit peu pourquoi j'associais le travail à la souffrance. Mais je suis certain que je suis pas du tout le seul. Enfin, c'est des espèces de choses qu'on ne dit pas depuis notre enfance, mais que tout le monde considère que le travail est lié à la souffrance. D'où l'envie, en fait, au début de mon mémoire, de trouver d'autres mots, ou d'essayer au moins de différencier un petit peu pour parler d'un travail bénéfique pour l'individu. Parce qu'évidemment, ça existe, quoi. Enfin, moi, quand je suis dans la création, je considère que c'est bénéfique et que je suis en train d'évoluer, d'augmenter. C'est quelque chose qui me fait du bien, le fait de créer. Je ne suis plus dans la souffrance. Après, parfois, ça peut se chevaucher. Enfin, c'est pas si binaire que ça. Hein. J'essaye juste de mettre des mots sur des notions assez... dans des teintes de gris, quoi. Donc voilà, donc tout la problématique du mémoire que j'ai mis en place, c'était comment transformer le travail en ouvrage. Donc ouvrager, œuvrer, là on se rapproche déjà un petit peu plus de ce que fait l'artiste, être plus dans œuvrer sa vie, quoi, et pas chercher à gagner sa vie. Enfin, il y a tout un tas d'expressions liées, liées au monde du travail, gagner sa vie. Gagner son pain à la sueur de son front, enfin, c'est très lié à la religion, tous ces trucs aussi, hein. Donc forcément je me suis aussi intéressé à la religion et à cette espèce de châtiment divin qui est la conséquence du péché originel, qui dit que désormais c'est à la sueur de ton front que tu gagneras le pain de ta vie. Il devient alors difficile pour l'homme de travailler la terre et la femme enfante dans la douleur. Et c'est ça qui est dingue, c'est que le mot travail revient encore une fois dans ce moment précis de l'accouchement où on parle de salle de travail, une femme au travail. Enfin, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, punaise, mais c'est vrai, ouais, c'est... Qu'est-ce que ça fout là? Mais là, on est à fond dans la souffrance. Et en même temps, on est à fond dans la création. Et les deux sont très liés, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et que j'ai relié beaucoup à mon sport, qui est donc, sans grande surprise, la gymnastique artistique, vu que j'ai un papa qui est entraîneur. Et c'est pour ça que dans ma production, j'ai commencé à faire des performances, en fait. Des performances, enfin, avec cette espèce de double sens de performance, performance artistique, performance sportive. Et en fait, ça s'est un petit peu imposé très naturellement. Je fais encore des sculptures praticables, des sculptures, structures dans lesquelles je peux rentrer, qui peuvent supporter mon poids, que je fais sur la base de mes propres dimensions corporelles. Et donc forcément, ça appelle à la performance directement. Il y a plein de choses, ça part un petit peu dans tous les sens des fois, mais je vois qu'il y a des liens quand même, et j'essaye de synthétiser tout ça. Encore une fois, le mémoire m'a beaucoup aidé à synthétiser tout ça.
Alors j'imagine que tu as fait, Flavien, une copie de ton mémoire et que tu l'as amené à ton chef de chantier, à ton patron.
C'est vrai que c'est une très bonne idée, j'y avais jamais pensé. Et bien tu vois, tu viens de me mettre Voilà, je sens que ça va me travailler du coup. Je vais y penser pendant un moment, et puis peut-être dans quelques années, j'irai. Bon, allez, j'y vais. Je vais leur filer.
Parce que tes propos, Flavien, interpellent. Effectivement, on est tous à avoir vécu, comme tu dis, d'abord des années à l'école, de travail, de trucs à rendre, d'être compétitif, être dans la norme, etc. Et là, tu es toi. Tu es pas ce qu'on attend de toi. Tu es toi quand tu fais tes créations.
J'ai l'impression que c'est tout le défi. Je sais pas si j'arrive réellement à l'être, mais j'essaye à tendre à ça, ouais. J'ai l'impression que c'est assez compliqué, hein. Il y a une espèce d'équilibre assez subtil pour pas retomber dans le travail. Parce qu'un artiste aussi peut travailler, donc souffrir. Je pense que c'est pas en lien forcément avec le métier qu'on réalise. Assez naïvement, voilà, il y a ça aussi. C'est qu'assez naïvement, je pensais, en tentant de devenir artiste, en reprenant des études artistiques, Je pensais échapper à ça, échapper au travail en me disant je ne vais faire que vrai, je ne vais être que dans l'ouvrage. Mais c'est pas aussi simple en fait. Et j'ai eu pour exemple, enfin, j'ai fait de l'assistanat d'artiste, j'ai fait des stages aussi auprès d'artistes, et en les observant un petit peu, je me rendais compte que, enfin voilà, un artiste aujourd'hui c'est aussi c'est une entreprise. Et ils sont soumis à des pressions, à des voilà, ils ont des contrats, à des délais complètement dingues, et faut pas croire qu'ils sont ultra décontractés, sans aucun stress, c'est tout l'inverse. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que bah, comme n'importe quel patron d'entreprise, hein, qui en fait c'est sa vie, quoi. Et c'est un espèce de sacrifice, enfin sacrifice, bon, j'utilise des mots un peu forts des fois, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de mots assez nuancés. La langue française, j'ai l'impression que des fois elle est assez pauvre, ou peut-être ma connaissance de la langue française est pauvre, je ne sais pas. Il y a une espèce, en tout cas, d'investissement tous les jours, quoi. Il n'y a pas de week-end, quoi. Les artistes que j'ai vus travailler, ils prennent pas de week-end, quoi. Ils se lèvent le samedi, ils se lèvent le dimanche, c'est comme si c'était un mardi ou un lundi. Alors bien sûr, ils commencent pas à 6h du mat, et c'est un petit peu l'avantage qu'ils ont, mais ils pensent tous les jours, tout le temps, à leur pratique. Et il n'y a pas de vacances où ils arrivent à déconnecter, quoi. C'est vraiment comme si... C'est une espèce de prison dorée, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je me pose beaucoup de questions sur... est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je suis prêt à ça? Parce que c'est pas un métier, quoi. C'est un mode de vie, quoi. Être artiste, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est un mode de, une façon d'être au quotidien, quoi. C'est quelque chose qui nous suit au quotidien et qui nous lâche pas, quoi.
Vous avez 3 nouveaux messages.
Mon pote, niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur.
Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur.
Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, veulent les voir dans la cuisine. Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés, y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent
j'ai été trop gentil, maintenant fini de se faire avoir.
Mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur. Que des balles dans ton
Flavien Déré, charpentiste sur Dissonance.
C'est incroyable la maturité de tes propos. On dirait que tu as 40 ans ou 50 ans. T'as quel âge, Flavien?
J'ai 28 ans, mais... Non, mais je sais pas, c'est le fait d'observer les gens aussi, qui eux ont l'expérience et qui eux pratiquent depuis des années, que ce soit des artisans ou bien des artistes. Les deux sont pas forcément très très éloignés. Et c'est un petit peu, j'ai un peu l'impression d'avoir un pied chez l'un, un pied chez l'autre, quoi.
Donc tu sors des Beaux-Arts, qu'est-ce que tu fais?
Déjà, je commence par me poser beaucoup de questions, par entrer dans cette espèce de grand vide abstrait qu'est la sortie des Beaux-Arts. La sortie des Beaux-Arts, c'est pas évident, hein. Je pense que pour chaque jeune artiste, quoi. C'est un espèce de, bah, de passage, de flou, de bon.
Sors avec un titre.
Alors, on sort voilà, avec un titre, un diplôme, oui, qui a été reconnu il y a quelques années comme grade master. Voilà, c'est un diplôme qui nous permet d'avoir accès à certaines résidences. Toutes les résidences ne demandent pas forcément le diplôme. Mais voilà quoi, enfin, c'est pas un diplôme ultra. On n'est pas dans la rentabilité encore une fois et dans le. Voilà. Je suis sorti des Beaux-Arts, je me suis acheté donc un camion. Et ça faisait quelques années que j'agrandissais en fait ma caisse à outils. Et donc j'ai continué à agrandir cette caisse à outils dans une optique de devenir le plus autonome possible, de façon à pouvoir continuer à créer, que ce soit de l'art ou non. Que ce soit de l'art ou de l'artisanat, en fait. Limite, à la sortie des Beaux-Arts, pour moi, la question n'était pas de faire... Enfin, la priorité n'était pas de faire que de l'art, en fait. Pour moi, je voulais pouvoir continuer à être dans la création, dans la production, et tout en recherchant une certaine autonomie, et ne pas être dépendant de tout un tas d'organismes, tout un tas de bourses qui sont attribuées si tu es gentil et que ton dossier présente bien, etc. quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai visé, et donc forcément, en fait, il y a eu déjà des petits chantiers qui se sont... comme ici à la menuiserie, notamment, l'espèce de palissade là-bas au fond, là... qui a été quasiment mon premier chantier. Et c'est marrant, ouais, que je me retrouve ici un an et demi après avec le projet de l'exposition, parce que je suis arrivé ici en tant qu'artisan, en fait.
Chaque fois que te proposais un travail à faire, tu voyais ça comme une création?
Alors voilà, l'idée, c'est qu'il y ait quand même une part créative qui rentre là-dedans. Et même, j'essaye au maximum, même quand je suis dans des ouvrages d'artisanat, d'être dans l'ouvrage, en fait, et de ne pas être dans le travail. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir... C'est pour ça que j'aime beaucoup les chantiers qui me laissent un maximum carte blanche, quoi, ou en tout cas une marge de manœuvre et une possibilité de créer des choses à ma façon, entre guillemets.
Et ça se trouve facilement, ce genre de patron et de chantier?
Mais écoute, pour l'instant, j'ai plutôt de la chance, parce que je suis tombé sur des gens qui m'ont fait confiance. Et là, Jeanne m'a vachement fait confiance à l'époque pour faire cette palissade, et j'avais de quoi mettre ma patte un petit peu, si on veut. Enfin,
c'est de toi l'idée des miroirs qui reflètent la végétation là aussi, non?
Alors, ce ne sont pas des miroirs, c'est de la vitre. C'est la vitre qu'on voit.
Ah d'accord.
Qui fait toute la hauteur, en fait. Voilà. C'est des petites fenêtres.
Ah ok. Et on voit le mur derrière.
Voilà, on voit le mur directement, on voit le parpaing. J'aimais bien l'idée de montrer. En fait, c'est des petits encadrements qui montrent le parpaing du garage de derrière. Et j'aimais bien l'idée d'encadrer du parpaing, quoi. Le truc qu'on veut cacher absolument. Et que j'aime beaucoup les matériaux de construction. Et mettre en valeur ce qu'on veut cacher, j'aime beaucoup cette idée.
Tu privilégies les matériaux de récupération aussi pour leur donner une seconde vie. Je sais que tu as travaillé dans un resto à Besançon sur le Causse-Comtal qui s'appelle La Table, et tu as fait avec des matériaux de récupération. C'est aussi une dimension supplémentaire par rapport à ton projet de création, de créer avec du matériel qu'a vécu.
Ouais, tout à fait. Et c'était vraiment le premier chantier où je récupérais à ce point, en fait. C'était vraiment du bois de grange, en fait. Je vais pas parler de ruines, mais voilà, d'une grange qui était restée dans son jus et avec tous les matériaux et matériel qu'il y avait. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, le fait de travailler avec du bois qui n'est pas calibré et qui ne sort pas du magasin de bricolage, quoi. Le fait de pouvoir faire du sur-mesure avec du bois qui lui-même est tordu. Donc en fait, tout est tordu. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus long. Mais en termes de satisfaction personnelle, ou en tout cas satisfaction du boulot réalisé, de l'ouvrage réalisé, je m'y retrouve beaucoup plus, en fait. Parce que je retrouve, en fait, du vieux chêne et des vieux matériaux qui ont gardé, en fait, cette espèce de noblesse. On dit beaucoup que le métier de charpentier, à l'époque, il y avait une certaine noblesse dedans. Le fait de travailler du châtaignier, du chêne, avec ses assemblages, avec ses épures au sol, tout ça. Et c'est justement cette noblesse qu'on a perdue, j'ai l'impression. Et ce métier donne moins de possibilités d'être fier de son travail. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Lorsque je travaillais donc sur les chantiers, j'aimais beaucoup, en fait, laisser un dessin ou un petit mot sur la charpente qu'on était en train de faire. Et je le faisais à peu près sur tous les chantiers, donc même les chantiers en fermette industrielle qui voilà, n'avaient pas grand intérêt. Hein. Et un jour, mon chef de chantier, qui avait bon, bien 30 ans de plus que moi, me dit « Ah, j'ai vu que tu avais écrit sur la charpente et tout. » Je dis « Ah oui, oui. » Il me dit « Moi, je faisais pareil quand j'étais jeune. » Et je dis « Ah bon, mais tu as arrêté du coup ?» Il me dit « Bah oui, j'ai arrêté. T'as vu les matériaux qu'on utilise ?» Et en fait, il voulait plus signer, parce que c'est une signature en fait. Il ne voulait plus signer les charpentes qu'il faisait parce qu'il ne voulait pas que son nom soit associé à la pauvreté des matériaux utilisés aujourd'hui. Et en fait, c'est comme si, moi je l'ai vu sous cet angle-là, c'est comme s'il avait cessé d'être fier de ce qu'il produisait, fier de ce qu'il créait. Et c'est là que j'ai un peu vu l'espèce d'évolution du métier, quoi. Quand je fais de l'artisanat, un des indicateurs qui me permet de me dire que je suis dans l'ouvrage et non dans le travail, c'est ma volonté à la fin du chantier, ma volonté à signer ou non l'ouvrage réalisé. Et ça c'est quelque chose juste que je sens. Si j'ai envie de signer, donc avec des petits poinçons, quelque chose de très discret, hein, c'est pas l'idée de s'afficher ou de revendiquer quoi que ce soit, c'est... Si je sens que j'ai envie de le signer, bah, je me dis, bah voilà, j'étais dans l'ouvrage.
Donc ce qu'on voit là-bas, tu l'as signé.
Bien sûr, ouais.
Est-ce que tu as fait à Besançon aussi ?
Oui. Il y a pas mal de signatures à droite à gauche à Besançon, ouais. Faut... Et après, c'est marrant, c'est le jeu, quoi. Il faut trouver un petit peu la signature. J'aime bien signer un petit peu de différentes façons. Je ne mets pas toujours mon pseudo, ou des fois je mets des petites citations ou des petits morceaux de poésie de chantier, comme je les appelle, parce qu'il y a beaucoup de termes utilisés sur le chantier qui sont en fait très très beaux et qui sont très poétiques, comme par exemple se mettre à fleur. Quand on veut aligner deux bois et qu'on touche avec le pouce, on vérifie s'il est à fleur, et quand on a un biseau qui arrive en pente douce, on dit que la pièce de bois vient mourir à fleur, venir mourir à fleur. C'est très poétique. Enfin, je trouve ça très très beau. Et j'aime bien ce genre de petites phrases que, du coup, soit je détourne, soit j'adapte au chantier, soit j'adapte. Enfin, voilà, que. Soit je grave, soit je.
Plus de magie dans ce maudit siècle. Plus que des trucages, des fils qui se voient. Des pères qui meurent, des fils qui se noient. Orgie, c'est là qui morphe. Viande usée pour buffet froid. J'ai lu dans les petites annonces que l'État recherche des culs étroits. Kafka est mort, vive Bec BD. Tous ces cadavres sont excédés. De nouveaux dieux piétinent leur tête. De nouveaux dieux piétinent leur rêve. C'est la fête, mais t'es dehors. Et puis tu votes pour ceux qui rentrent. Je préfère la langue de Guy Debord. La voix perdue de ceux qui tentent. Mis dans les selles d'une époque faste. V'là l'odeur et c'est normal. Crache ma couleur dans des corps fat, tu es Charlie, je suis Saint Phal, né dans les selles d'une époque faste. V'là l'odeur et c'est normal, crache ma couleur dans des corps fat. Tu es Charlie, je suis Saint Phal. Compose un phalanstère de poche, librairie, chambre et mini-bar. A minima fournit la pioche, recouvre l'oasis de silicate. Le temps se perd, il a raison, n'a ni la fibre ni le cancer. Chaque recoin est sa maison, chacun de nos gestes est une frontière. Mourir en pays nabi, je n'ai qu'un siècle de retard. Pour un jean, je ferai la manche en première classe de l'Eurostar. Autour tout est grifférotype, le vide est plein de stéroïdes. La création est hémophile, je me fends la gueule comme Démocrite. Ils veulent tout mieux que leurs voisins, lisent la liberté pour les nuls. Que de la violence dans ces crétins, que de la mesquinerie sur des murs. Rappeur et politicard, deux langages, une seule pensée. Y'a que le fric et le pouvoir qui finit par les faire bander. Je leur laisse gloire et port de tête, veux juste crever en bord de mer. Loin de leurs enfers magnétiques, loin des radars de leurs tarés de flics. Je leur laisse gloire et port de tête, veux juste crever en bord de mer, loin de leurs enfers magnétiques, loin des radars de leurs tarés de flics. Je leur laisse gloire et port de tête, veux juste crever en bord de mer, loin de leurs enfers magnétiques, loin des radars de leurs tarés de flics. Je leur laisse gloire et port de tête, veux juste crever en bord de mer, loin de leurs enfers magnétiques, loin des radars de leurs tarés de flics.
Flavienne Déré, charpentiste sur Dissonance.
Ton nom d'artiste, Flavien, c'est Eto. Tu signes Eto. Et pourquoi?
Alors ça, c'est venu courant Beaux-Arts, en fait. Et j'ai mis un petit peu de temps avant de vraiment adopter ce pseudonyme. J'aime bien parler de l'histoire de quand j'étais gamin et que j'allais dans les ateliers de mes grands-pères pour voir un petit peu ce qui s'y passait. Et que je voyais un petit peu tous ces outils qui étaient accrochés, qui étaient organisés, qui étaient rangés, sans comprendre en fait à quoi ils servaient. Mais en sentant quand même l'espèce de potentiel dans chaque outil, mais avec cette incompréhension, et je le voyais un petit peu comme une espèce de... Je sais pas, des espèces de grands-pères qui étaient un peu alchimistes, parce qu'ils travaillaient la matière. Dans le travail de la matière, il y a la transformation. Tu parles de quelque chose de brut pour le transformer en quelque chose de fini ou d'utilitaire, que sais-je. Et en fait, je me suis rendu compte que certains outils me venaient, non pas de mon grand-père, mais de mon arrière-grand-père, et qu'ils étaient encore aujourd'hui tout à fait utilisables, voire même plus efficaces, ou en tout cas de meilleure qualité que les outils qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins de bricolage, quoi. Évidemment, la qualité des métaux, par exemple, a vachement chuté, en fait. Et je me suis fait la réflexion que, en fait, la façon dont mes grands-pères avaient de survivre à... enfin, d'œuvrer pour quelque chose de plus grand qu'eux, passe par leurs outils. Parce que l'ouvrage, ou le travail réalisé, il va falloir le refaire 30, 40, 60 ans plus tard, une toiture a une durée de vie limitée, des choses comme ça, et je me suis rendu compte que certains outils surpassaient en durée de vie les ouvrages qu'ils avaient réalisés. Et je pense que c'est aussi lié avec ce truc de l'artiste et de la volonté de faire une œuvre qui est plus grande que soi, ou une œuvre qui nous dépasse, ou, enfin, il y a tout ce truc de laisser une trace qui au final, j'ai l'impression d'être un petit peu imprégné de ça. Enfin, j'ai envie de... Si je laisse une signature derrière un ouvrage réalisé, c'est que j'ai envie de laisser une trace d'une certaine façon. Et je pense que ça passe par l'outil, en fait. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse à ce point. L'outil et la main. Mmh. La main comme premier outil, en fait. Mmh. Voilà. J'aimais beaucoup cette espèce de côté magique que je donnais aux outils. Et certains outils m'inspirent, enfin me touchent plus que d'autres, en fait. Et je pense que l'étau est un de ceux-là. Donc dans l'étau, il y a aussi cette mâchoire qui vient appliquer des contraintes. Dans ma production, le mot contrainte est quelque chose qui revient très souvent, parce que je parle de... dans le travail, il y a des contraintes, quoi. Enfin, on est dans la contrainte, et peu importe la forme de travail, j'ai l'impression. C'est-à-dire que même au gymnase, en gymnastique artistique, les contraintes du corps sont très présentes. Et c'est vrai que quand on écoute un peu ce qui se dit dans les gymnases, les entraîneurs disent « Allez, on se remet au travail, quoi. » Alors qu'on est dans la pratique d'un sport qui, des fois, est même pas de compétition, quoi. Mais on parle du travail, même pour quelqu'un qui va jouer d'un instrument, quoi. Il va travailler son instrument. Mais non, il n'est pas dans la... Enfin, j'espère qu'il n'est pas dans la souffrance. Je pense qu'à un certain niveau, oui, on peut tomber dans la souffrance. Mais encore une fois, c'est un équilibre, quoi, qu'il faut trouver. Et il y a aussi cette espèce de fiabilité, de stabilité. Pour moi, l'étau, c'est un petit peu le centre de l'atelier. Et c'est la mâchoire fiable qui va nous permettre de serrer n'importe quelle pièce. Et si on force, c'est pas l'étau qui lâche. C'est un petit peu un espèce de point d'origine, quoi. Un espèce de point zéro, quelque chose de très fiable. Mmh. Et en fait, j'ai aussi trouvé une espèce de ressemblance picturale au moment où je signe étau.
C'est toi qui as inventé le mot charpentiste ?
Tout à fait, ouais. Donc c'est un terme que j'aime beaucoup, parce que... ouais. Donc après, ça dépend. Je me présente pas en tant que charpentiste, parce qu'après, il faut que je me lance dans des explications qui durent une demi-heure. Enfin, ça dépend des contextes. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec le mot artiste, ouais. Je préfère, à la limite, plasticien. Parce que j'ai l'impression qu'on est plus dans la recherche de la matière et dans la pratique de la matière. Mais charpentiste, ça me plaît beaucoup, ouais. Un espèce de mots combinés qui au final rassemble bien. Enfin, je me reconnais plutôt dans le charpentiste plutôt que dans l'artiste.
Et dans ce que tu produis, dans ce que tu réalises, dans ce que tu crées, c'est quelque chose d'utilitaire ou c'est quelque chose qui te plaît toi? Parce que des fois, tu as des commandes.
Alors, c'est vrai que la question de l'utilité et de la fonction de la sculpture est aussi assez centrale dans ma production. Et c'est un petit peu ce qui pose le problème pour le côté artiste. Pour le charpentiste, je pense que ça tombe parfaitement, parfaitement bien. Mais beaucoup de mes sculptures ont des fonctions, ou en tout cas sont activables. On peut s'en servir, quoi. Je peux m'en servir. Je dis « je » parce que souvent, je les adapte un petit peu à mes dimensions corporelles. Donc, c'est vrai que suivant les gabarits, suivant les tailles, les morphos, tout ça.
Tu es sorti des Beaux-Arts, tu as acheté un camion, tu as trouvé des gens qui ont fait appel à toi pour des réalisations.
Oui.
Qui voulaient au départ concrètes ou artistiques ?
Non, bah surtout, je suis sorti de l'école il y a 2 ans, quoi. Donc au début, trouver des projets purement artistiques, bon, c'est assez compliqué, hein. C'est aussi ce qui engendre beaucoup de questions. Donc en fait, l'idée, c'était un petit peu de cumuler les deux, donc de répondre à la demande en réalisant quelque chose de fonctionnel, mais d'y apporter quand même que ça soit pas du IKEA, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant avec ce magasin suédois et cette espèce de normalisation, de standardisation. Enfin, j'avais un peu peur quand je rentrais dans les appartes de certains de mes collègues aux Beaux-Arts et de voir qu'ils avaient un appartement IKEA avec des murs blancs, quoi. J'étais waouh, mais si t'es aux Beaux-Arts, c'est pour justement essayer de proposer quelque chose de différent, même dans la façon dont tu vis, en fait. C'est encore une fois, c'est une espèce de mode de vie, quoi. Et je suis un petit peu anti-IKEA, et à la fois il y a quelque chose de, enfin, ça m'interpelle cette histoire d'IKEA. J'ai pas encore assez creusé le sujet, il faut que je lise des bouquins avec des petits schémas de comment mettre la vis, tout ça, pour bien comprendre comment il fonctionne.
Les gens sont gris, et moi j'en ris. Laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main. Sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux. Et je danse avec les deux. Allons plus loin, en autarcie. Voir comme c'est beau, les ciels plus vieux. Qu'un jour plus vieux, je puisse dire comme tout est beau, avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière. Jusque j'ai pas des choses primaires. Le vent clairait, l'esprit serein. Le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas. Je voudrais qu'elle aime la terre entière. Mais ça les gens apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par le jaune du toc. Et on regrette ce qu'on a perdu.
Flavien Déré, charpentiste sur Dissonance.
Et alors, on est à l'aube d'un grand projet, là, puisqu'on est ici dans ce local de la menuiserie. Et le 8 juillet, c'est le vernissage de qui ? Flavien, de Flav, de Eto, de... Comment tu te présenteras ça ?
Eh bien, je pense qu'assumer de plus en plus le fait d'utiliser un pseudonyme. Donc là, ça va vraiment être le vernissage de Eto.
Voilà, le vernissage de Eto. Tu as carte blanche pour utiliser un local immense. Donc c'est le début de ta carrière de charpentiste.
Tout à fait, surtout dans un lieu qui s'appelle la menuiserie, ça tombe plutôt bien. Oui, en tout cas, c'est vraiment une première vraie expérience en tant que jeune artiste. Ouais. Je le vis vraiment comme un challenge.
De l'angoisse, de l'incertitude.
Oui, tout à fait.
Qui va avec... Tu es un vrai artiste alors?
Je sais pas, mais oui, ça va avec, ça fait partie du package encore une fois.
Ouais. À quelques semaines de ce vernissage, tu es prêt? Tu as déjà une idée de ce que tu vas présenter, de tes sculptures?
Tout à fait, ouais. Normalement, j'ai à peu près en tête tout ce qui va être présent dans cette exposition. Après, vu la taille du volume, je pense faire des modifications parce que j'ai peut-être pas toutes les proportions en tête, quoi. Donc ce que j'avais prévu, ça se trouve, il va y avoir quelques changements.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je pourrais voir, que tu pourrais me montrer ici, que tu as déjà commencé à faire, à part la palissade? Et je te suivrai le micro.
Ouais, oui. Alors il y a peut-être un objet que je n'ai pas fait, mais qui est qui va être un espèce d'objet central de l'exposition. Et je peux te montrer, il est là-haut.
Tu peux le dévoiler? Ça sera ouais. Pas... Ok, ben, je te suis. Là.
Allez.
Je garde le micro.
Le problème, c'est que j'ai pas encore assez déménagé pour avoir grand-chose à te montrer ici.
Mais non, mais ça fait rien, l'objet central, c'est pas mal. Donc on est dans une immense ancienne menuiserie qui appartient à l'association La Menuiserie. Waouh.
Super. Ça tombe bien parce qu'on était un petit peu dans la discussion de la fonctionnalité de l'objet et tout ça, quoi.
Alors, je te le laisse présenter.
Ouais, tout à fait. Alors en fait, on est devant un étau qui a été fabriqué par mon grand-père lorsqu'il était donc dans les années début des années 50, lorsqu'il était en formation dans une école de ferronnerie. Donc il a été entièrement usiné il y a 70 ans. Et là on est complètement dans cette idée d'objet magique en fait. Pour moi, c'est un objet fonctionnel, c'est un outil qui peut serrer des pièces. Mais moi, je vais le mettre sous cloche, en fait. Je vais le présenter sous cloche, parce que j'ai l'intuition qu'il est plus du côté de l'œuvre d'art que de l'outil fonctionnel dont on va se servir. C'est pas un étau qu'on a envie, avec lequel on a envie de serrer des choses, avec lequel on a envie de venir meuler par-dessus je ne sais quel morceau de métal... On n'est pas là-dedans. Je sens qu'on n'est pas là-dedans. Je suis assez partisan du fait que l'esthétique découle de la fonction. C'est-à-dire, là, chaque partie de l'étau a une fonction. Et si c'est présent, c'est qu'il y a une raison, en fait. Une raison pratique. Et on n'est pas là pour rajouter des fioritures à droite à gauche, en fait. J'aime le côté assez efficace, parfois épuré. Enfin, j'aime beaucoup la géométrie, quelque chose de très géométrique aussi. J'avais un prof qui disait qu'on pouvait classer les artistes en trois catégories. Soit ils sont géométriques, soit ils sont organiques, soit ils sont les deux. Et moi, clairement, je sais dans quelle case je me trouve, je suis à fond dans la géométrie, quoi.
Bonne chance pour cette expo qui démarre le 8 juillet avec un vernissage dans la journée. Certainement, il y aura des informations.
18h, oui.
Eh bien, en tout cas, bon vent, bonne route. Et puis, je pense qu'à 28 ans, là, t'es bien parti, cher charpentiste. Salut, Flavien.
Merci, salut.
Salut.
Et fraternité.
Je déclare l'état de bonheur permanent. Et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège. Quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. Je conteste la légitimité des guerres. La justice qui tue et la mort qui punit. Les consciences qui dorment au fond de leur lit. La civilisation au bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres. Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu, je le veux à présent. Que ma femme soit belle à chaque heure du jour, sans avoir à se dissimuler sous le phare, et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle et de lui faire l'amour. Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes, et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis. Que nous soyons frères, camarades et complices, au lieu d'être deux générations qui s'insultent. Que nos pères puissent enfin s'émanciper et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes. Après toute une vie de sueur et de larmes, et des entre-deux-guerres qui n'étaient pas la paix, je déclare l'état de bonheur permanent, sans que ce soit des mots avec de la musique, sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que désormais nous serons responsables, nous ne rendrons de compte à personne et à rien, et nous transformerons le hasard en destin, seul à bord et sans maître et sans Dieu et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle, il y a de la place pour tous et pour chacun. Mais il nous reste à faire encore du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle. Je déclare l'état de bonheur permanent.